France Inter. Une heure en série.
Et transition toute pourrie, puisque c'est Adam qui va prendre la parole maintenant. Donc voilà, je ne suis pas à la hauteur de mes engagements, mais c'est l'effet miroir de Benoît Lagan. Très garçon, mais un peu queer quand même dans l'esprit. Et cher Benoît, pour coller à l'actualité, puisque c'est le principe de l'effet miroir, vous nous parlez ce soir de la fin de la traque du grêlé qui vous a inspiré.
Exactement. Alors, je ne sais pas si c'est un effet une affaire française ou affaire sensible de Fabrice Drouel, mais décidément, il se passe quelque chose entre France Inter et les faits divers. Tenez, vendredi, quand je suis arrivé dans le studio du 5-7 de France Inter, donc quand j'ai entendu Mathilde Munoz à 5h du mat, j'ai eu des frissons et j'ai monté le son.
France Inter. Le journal Thomas Giraudeau, bonjour.
Bonjour Mathilde, bonjour à tous.
C'est donc la fin de l'un des plus vieux cold case français.
Tout à coup, j'ai eu l'impression que la chronique série du 5-7 débarquait dans le journal. Impossible d'entendre le compte-rendu du dernier rebondissement de cette affaire sans penser à la série Cold Case avec l'enquêtrice blonde Lily Rush, où un vieux dossier non élucidé nous replonge directement dans une époque bien précise. En l'occurrence, ici, le milieu des années 80. À l'époque, c'est Philippe Calonni qui présente la matinale et, entre autres, Gérard Courchel, le JP, le journal parlé du matin. C'est au printemps, effectivement, 86, que l'affaire Cécile Bloch est évoquée pour la première fois dans les médias. 35 ans plus tard, le dernier rebondissement de l'enquête, c'est Nicolas Demorand et Marion Lourd qui nous l'apprennent.
Il est 7h06, le tueur en série Marion était un ex-gendarme. Il s'est suicidé après 35 ans de cavale.
On l'appelait le grêlé à cause de ses cicatrices sur le visage. L'homme soupçonné de 6 viols et 5 meurtres dans les années 80 et 90 était bien ce fonctionnaire retrouvé mort chez lui mercredi à Gros-du-Roi dans le Gard. Les analyses ADN confirment, les enquêteurs ont retrouvé une lettre d'aveu.
Je sais, c'est mon esprit une heure en série qui fait que j'ai du mal parfois à distinguer l'actualité sur un tueur en série d'une série sur un serial killer.
Quoi ?
Un serial killer.
Oh.
Je sais, c'est nul. Mais que voulez-vous ? J'ai l'esprit criminel. Mais au-delà du petit jeu sur les sons, voilà, les jeux de mots, les jeux sur les sons, ce qui m'intéresse ici, c'est plus la façon dont le monde des séries se nourrit de ce type d'affaires. Les faits divers réels, ça a toujours inspiré la fiction, mais au-delà de l'affaire du Grêlé ou de l'affaire du petit Grégory dont on vient de parler, la question que je me pose est la suivante. Qu'apporte la série quand elle tente de rejouer le réel ? Deux choses l'une. Soit on souhaite, comme on l'ont fait admirablement bien Jean-Xavier de Lestrade et Antoine Lacomblaise avec Laetitia, d'après le livre Divergent Bloca, de raconter une affaire d'État, en gros qu'un fait divers révèle au-delà de l'affaire et du fait divers, au-delà du meurtre horrible, l'instrumentalisation à des fins politiques, soit comme dans une affaire française avec l'affaire Grégory, on tente de relire une histoire qui a été à l'origine médiatisée comme un feuilleton, du coup plusieurs années plus tard, avec un peu de recul, on essaye de réfléchir au rôle néfaste de certains journalistes policiers ou magistrats sous la forme d'une série. Dans les deux cas, ce qu'apporte la fiction, c'est raconter au-delà de l'affaire ce que le fait divers dit de notre société, ou du moins logiquement. Prendre le recul et remplir les blancs, imaginer ce qui n'a pas été raconté avec, selon le projet, plus ou moins de véracité et de finesse. Des leçons donc à méditer. Au cas où l'affaire du Grêlé intéresse des producteurs de séries. Car rejouer cette affaire dans une série, cela permettrait de raconter l'évolution des moyens technologiques mis à la disposition des enquêteurs pour tenter d'attraper le tueur, comme par exemple l'autorisation dans les années 90 de l'analyse génétique ou l'arrivée des profilers dans l'enquête. Mais pour faire bien, il faudrait accepter de ne pas sacrifier les victimes au profit d'une énième histoire de tueur en série et de s'autoriser à prendre des libertés avec les faits réels afin de tenter de percer le mystère du tueur. Tout ce que l'on ne sait pas, imaginez son profil psychologique, son histoire intime. Entre Cold Case et Mindhunter, dans cette histoire, il y aurait tout pour nourrir une fiction, mais faut-il vraiment le faire ? Ça mériterait un débat.
Merci beaucoup, cher Benoît, pour cet effet miroir qui n'est pas sans faire écho à la une de Télérama la semaine dernière qui s'interrogeait justement sur la fascination à la fois dans les fictions et dans la réalité des faits divers. Et puis pour cet effet miroir très corporeux, vous avez visité la moitié de la rédaction de France Inter.
Oui, mais à la fois, ils sont tellement nourris par les séries qui, se ressent dans leur écriture.
Mais vous avez tout à fait raison, une chronique à réécouter en podcast, bien évidemment.